Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM. Nouveau rendez-vous sur l'antenne de Radio Alpes-Mancelles avec la revue Mancelles et Sartoises, édition numéro 477 et surtout première parution de cette année 2023 avec notre invité Jean-Pierre Guyard, directeur de la publication. Bonjour.
Bonjour.
L'occasion donc de rappeler que cette revue est éditée par l'association culturelle et touristique du Mans et de sa région dont vous êtes également le président. Est-ce qu'on peut dire quelques mots justement sur le fonctionnement de cette association?
Eh bien écoutez, la vie Mancelles et Sartoises doit être la dernière revue entièrement composée de A à Z, c'est-à-dire du choix de l'écriture des textes jusqu'à la commercialisation par les bénévoles. À ma connaissance, il ne doit pas en rester de vivante, malheureusement, en France.
Et ces bénévoles, ils sont nombreux. On va parcourir cette revue, donc, pour donner envie à nos auditeurs de se la procurer. On l'évoque déjà depuis quelques mois. Nous voici dans l'année du centenaire des 24 heures du Mans. Donc, le volet central de cette édition laisse bien évidemment une belle place à cet événement automobile, avec un focus, cette fois-ci, sur les années 60.
Oui, un focus un petit peu large, hein, si vous voulez, puisque ça va de... d'Alpine Renault, donc un petit peu comment est né l'Alpine Renault. On parle du pesage, effectivement. On parle DB. On parlait beaucoup de DB Panhard à la fin, puisque en fait c'était des moteurs Panhard. Et on va un petit peu plus loin parce qu'on va parler également de l'impact sartois dans le cadre de l'Hôtel de France. Donc, si l'on prend le premier de ces articles, Alpine Renault, donc c'est Jean Redélé qui a créé la marque. Et pourquoi Alpine d'ailleurs? C'est parce que il avait fait une voiture dans le rallye Liège-Romiège et qui avait gagné également sa catégorie au Critérium des Alpes. Donc, ben, il s'était dit, tiens, ben, pourquoi je ne ferais pas, pourquoi je n'appellerais pas ça une Alpine? C'était parti avec une 4 chevaux un petit peu améliorée au départ. Et puis, ça a surtout été connu parce que je pense que beaucoup doivent se rappeler de Michel Vaillant, qui était une bande dessinée au départ et qui est devenu un feuilleton télévisé. Et c'était donc Grand Cyr qui jouait le rôle de Michel Vaillant et ce que l'on appelait les voitures Vaillant, c'était une Alpine. Bon, bah, y a eu des hauts et des bas, effectivement. Et puis, à partir de 1969, Renault s'est désintéressé un petit peu des 24 heures. Et puis, bon, ça a été remplacé par Matra qui, elle, a pris le relais sur les circuits d'endurance. Alors, autrement, le pesage, ben oui, le pesage qui est un grand classique de la Grande Semaine du Mans qui se déroule maintenant en place de la République. Alors, le pesage, c'est un point du règlement qui dit que chaque voiture doit être vérifiée. Et pourquoi pesage? Tout simplement parce que ben, le truc, c'est de peser la voiture pour savoir combien elle pèse, effectivement, pour annoncer le poids. Donc, d'où le dérivé pesage. On a connu le pesage dans différents endroits, notamment Place d'Alger. Effectivement, maintenant, on voit mal comment le faire Place d'Alger, parce que ça manquerait un petit peu de place. Donc après, ça a été mis du côté de l'église Coiffeur, dans la caserne de Cavaignac, avant de venir au Quinconce des Jacobins, d'aller au circuit, de redescendre au Quinconce des Jacobins, et donc toutes les vérifications techniques, administratives, se font maintenant Place de la République. Un autre volant, la DB, effectivement, les DB qui ont été des voitures françaises, bon, qui ont connu leurs heures de gloire sans figurer vraiment sur la première marche du palmarès des 24 heures, qui était en fait l'alliance de deux constructeurs qui étaient René Bonnet et qui étaient Charles Deutsch, qui se sont alliés tous les deux pour créer les DB. Et les DB qui avaient connu effectivement une petite heure de gloire avec les moteurs Panhard. On parle également de la Chevrolet Corvette numéro 3 qu'il fallait sauver. Alors ça, c'est un épisode qui est mal connu Hein. C'est-à-dire que le moteur un peu trop chauffé, il commençait à peiner. Et que il avait terminé, heureusement, grâce à de la glace que l'on mettait à chaque tour. La voiture s'arrêtait. On remettait de la glace autour de façon à ce que le moteur refroidisse pour pouvoir faire un tour supplémentaire. Et puis, bien entendu, les hôtels Pastaux, l'hôtel des Pastaux, l'hôtel de France à La Chartre-sur-le-Loir, qui a été le berceau dans la semaine mensuelle de très très nombreuses écuries.
Voilà, et on remercie Patrick Mech, Claude Goisdieu et Daniel Levoyer pour ces articles. Autre sujet mis en évidence, donc en page de couverture de ce numéro, bien plus qu'une simple page qu'on a l'habitude de retrouver dans la revue à chaque édition, une miette de patois. Donc cette fois-ci, Serge Bertin nous propose un sujet sur ce parler manceau et sartois qu'est le patois. Vous allez nous en dire un peu plus.
D'accord, que vous voulez que je vous cause. Je suis presque parfait bilingue. Hein, quand j'entends Pilou qui donne des cours sur des radios LMTV, je ris bien parce que j'arrive, je fais de la traduction instantanée. Le patois, oui, effectivement, le patois, c'était la langue de tout le monde dans les campagnes. Moi, si je connais bien le patois, si je le pratique encore avec des gens, avec des patoisans, c'est tout simplement parce que quand on était petit en campagne, on traînait souvent avec le grand-père. Et puis, le grand-père, il parlait patois, évidemment, ça venait par source naturelle. Et puis, on maîtrisait, on comprenait ce que disait le grand-père, et puis on parlait comme lui. Alors, le patois a connu effectivement des périodes fastes et des périodes d'un peu moins fastes. La période faste, ça a été jusque à peu près dans les années 1870, fin du 19e siècle, puisque après, à l'école, on avait institué le français. Et donc, les hussards noirs de la République obligeaient tout le monde à parler le français. Que ce soit dans la Sarthe, où il y avait des punitions quand les élèves étaient surpris à parler patois pendant les cours, ou, par exemple, en Bretagne, il était interdit de parler breton dans toutes les régions, et on a imposé le français. Donc, il a disparu. Enfin, disparu. Moi, je sais que dans les années 60... si on parlait français et si on parlait bien pendant les cours, à la récréation, on avait encore tendance un petit peu à s'exprimer en patois. Et puis il y a une deuxième partie qui est un petit peu les particularités phonétiques, tout le vocabulaire particulier, qui sera un petit peu long de sortir. Bon, il y en a quand même qu'on connaît encore, une seille pour un seau. Faire la buée, pourquoi la buée? Tout simplement parce qu'on faisait bouillir la lessive avant on faisait bouillir le linge sale avant de le laver, donc ça faisait de la buée. Un devantiau, c'était tout simplement un tablier pour les dames. Et puis vous trouverez quelques illustrations. Il y a la patronne qui bouscule un peu le patron. Déprestez donc. Ah, il commence à m'achaler ce maudit boban, c'est-à-dire qu'il commence à m'énerver parce qu'il fait rien. Et puis lui qui répond, t'as pas pris toutes les truffes, t'as pas ramassé toutes les patates, il y a encore une que je trouve là. Bon, c'est un petit peu le côté amusant de la chose. En fait, amusant, on dit amusant, mais en fait, ça fait partie de la culture sartoise.
J'ai cité Serge Bertin, n'oublie pas de citer également Bernard Hinault et Fernand Lejar.
Tout à fait.
Et on va maintenant changer de sujet complètement. On va aller avec André Ligné, donc qui évoque le rôle que joue la famille Pellier dans le développement économique. On va parler conserve.
Alors oui, originaire effectivement de la Sarthe. Hein. Donc effectivement, eux, ils ont développé la conserve. Disons que c'était à une époque où on commençait à connaître les conserves, c'est-à-dire qu'en faisant stériliser les choses. Disons qu'il y avait type le fameux Pasteur qui avait inventé les microbes. Là, on s'est mis à travailler sur des conserveries. Et puis, les frères Pellier, eux qui avaient une usine au Mans, effectivement, ils fabriquaient des asperges, des petits pois, des légumes. Et puis après, ils se sont développés dans le poisson. Alors c'était un petit peu dur de se développer dans le poisson au Mans. Donc ils sont allés à la turballe, ils sont allés au sable de l'âne, hein, c'est-à-dire aux endroits, ils allaient à la source, effectivement, de leur approvisionnement. Donc c'est une entreprise qui s'est énormément développée. Et puis jusque dans les années relativement récentes, qui continuait à faire, son petit bonhomme de chemin. Donc voilà, on avait donc les légumes, on avait et surtout le poisson. Et puis ils ont essaimé parce qu'ils ont été très impliqués dans la vie du Mans. Ils ont été un petit peu impliqués et on retrouve même un Pellier qui fut le premier maire de la Turballe. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils avaient installé une usine. Hein, et puis à l'époque, le patron, comme il savait bien diriger une usine, il devait savoir diriger une commune. Et notamment sur Le Mans, il y avait une usine à Langevinière.
On va parler également de certains petits villages sartois, notamment l'un pour son prieuré, donc trésor architectural de la dynastie des Plantagenêts. On parle de Château-l'Ermitage.
Alors, Château-l'Ermitage, que l'on connaît bien ou que l'on connaît un petit peu moins bien, mais sans vouloir pousser tout le monde vers Château-l'Ermitage, ça vaut quand même le coup d'aller visiter un petit peu cette petite commune qui est restée une commune de la Sarthe, hein, entre le Bélinois et puis la vallée du Loir. Eh bien, c'est la dynastie des Plantagenêts qui a permis d'ériger, puisque la première pierre de la construction d'un prieuré a été faite par Geoffroy Plantagenet, comte d'Humaine et d'Anjou, son fils Henri II, qui deviendra roi d'Angleterre, a continué à développer. Ça dépendait de l'abbaye de Beaulieu au Mans. Alors l'abbaye de Beaulieu, pour ceux qui voudraient savoir où c'est dans le quartier de la Madeleine. Alors ça a connu bien des vicissitudes puisque effectivement pendant la guerre de 100 ans ça a été un petit peu démoli parce que les Anglais ils étaient pas contents de voir ça et puis c'est occupé, ils ont pris les livres, ils ont abîmé les peintures, les ornements, ils ont tout emmené, tout ce qui faisait un petit peu la fortune. Et puis cette partie un petit peu difficile. L'église a été restituée, a été reconstruite. L'abbaye, effectivement, a été restaurée très longtemps avant de devenir, vers la fin du 18e, début 19e siècle, et avec la suppression des ordres religieux, il a commencé à y avoir la dégradation de tous les lieux. Et puis, il a fallu attendre 1982 pour qu'ils entreprennent la restauration, notamment différents propriétaires, jusqu'à l'acquisition de M. Potier, qui avait été un ancien instituteur du village. Et puis, ils entreprennent la restauration de ce que c'est un lieu qui est vraiment très, très intéressant. Et où on trouve encore énormément de choses qui évoquent toute la période de Plantagenêt au niveau de la Sarthe.
Et on remercie donc Paul Cousin pour cette invitation à visiter ce village de Château-l'Ermitage. On va prendre direction Châles maintenant pour parler de Pierre de Ronsard.
Alors effectivement, Pierre de Ronsard à Châles, ce qui va clôturer un petit peu la toute une série de qu'avait écrit Gérard Blanchard, effectivement, qui va gommer toute cette période des gens qui ont marqué le Haut Maine pendant la Renaissance. Alors Pierre de Ronsard, c'est comme l'ami du Bellay et tous ces gens-là. Alors lui, Ronsard, c'est un Vendômois. Il est né à Soulet. Puis Pierre de Ronsard. Son père était au service du comte de Vendôme, et puis en qualité de grand sergent fief de la forêt de Gâtine. Oui, en clair, c'était le chef des gardes forestiers, des gardes chasse. Il a fait un petit peu Pierre de Ronsard. Bon, son enfance, elle se partage entre le manoir de la Poissonnière à Couture-sur-Loire, donc pas loin du sud de la Sarthe, et la chapelle Gauguin, qui est dans la Sarthe. Et puis là, il a eu quand même deux personnes très intéressantes qui se sont occupées de son cas pour son éducation, le fléchois Lazare de Baïf et Guillaume Langer du Bellay, qui étaient des diplomates et qui avaient des gens de grande culture. Et puis, ni François Ier, ni Henri II, ni François II ne répondent favorablement aux sollicitations de Ronsard, parce que Ronsard, il aurait bien voulu développer un petit peu les belles lettres, mais personne. C'est le soutien, le cardinal Jean du Bellay, qui était évêque du Mans, hein, et qui l'a aidé pendant le règne de Charles IX, et qui lui apporte en 1554 ses premières cures. Alors, pourquoi on parle de cures? C'est tout simplement parce que on les faisait propriétaires d'une cure à Châles, avec un revenu de 600 livres par an, évaillé, avec un titre de curé baron. Oui, effectivement, on s'aperçoit qu'en fait, la cure de chanfleur lui échoit également. C'est comme ça qu'on s'aperçoit que l'Église permettait quand même de vivre très bien à certaines personnes. Alors, pourquoi on trouve Ronsard dans l'église de Châles? Il en fut le curé. Peut-être passait-il sans toutefois y séjourner ni laisser de traces, hein, parce que on trouve pas beaucoup de traces du curé, vous trouverez pas ses sermons. Et puis, il y a eu un moment où on a restauré l'église de Châles qui avait pas mal, qui avait subi de grosses difficultés architecturales. Et puis, il fallait la rouvrir. Il a fallu vraiment la réparer, si je puis dire. Et puis, la mairie avait commandé à l'atelier Vitrail France des vitraux, trois vitraux, pour à l'effigie de Pierre de Ronsard. Donc, il y en a un côté sud, Pierre de Ronsard en habit de gentilhomme. Il y en a un côté nord, c'est Jean du Bellay. Et puis, il y en a un côté ouest, c'est Saint-Laurent et son grill. Donc, ça ramène un petit peu tout ça à la même époque, à savoir l'époque de la Renaissance.
On va pas énumérer tous les sujets de cette revue. On va laisser nos auditeurs éveiller leur curiosité, mais on va tout de même, dire quelques mots sur cette page qui s'intitule Un jour, un fait, un crime à Marinier, puisque c'est vous-même qui l'avez écrite.
Alors, c'est moi-même, en tant que marinier de souche, étant né à Marinier-Layer. Alors oui, un jour, un crime. Alors, effectivement, ça peut paraître quelque chose de un petit peu glauque. Et ça l'est, effectivement, parce que c'est toute cette période de début, et qu'on connaît encore malheureusement, des méfaits d'alcoolisme. Et puis, ben là, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, ben, lorsque Madame Buvet, et puis que Monsieur, ben, il était amené à se séparer de Madame par des moyens violents, ben, on le défendait parce qu'il avait vraiment, vu ce qu'elle lui avait fait souffrir. Ben, là, c'est l'histoire d'un brave homme au départ qui tenait l'hôtel du Lion d'Or à Marignaillet. Et puis, c'est un couple qui arrivait de la région de Saint-Vincent-du-Loir et le Grand Lucé. Et puis, ben, ça se passait très bien. Et puis, ben, son épouse est décédée. Et en mourant, elle lui a fait promettre d'épouser la bonne. Oui, ça se faisait à l'époque. Marie Bobet. Et puis, ce qui s'est fait au début, c'était idyllique. À savoir que elle s'occupait très bien du fils qui était né de la première union, elle tenait bien la maison, enfin, ce qu'on disait à l'époque, une femme propre, travailleuse et économe. Et puis, disons qu'elle s'est mise à boire. Mais ce que les gens ont vu, c'était le côté alcool. On cherchait pas les causes à l'époque. C'est tout simplement que malgré le fait qu'elle était l'épouse du patron, disons que dans son esprit, dans l'esprit du patron, elle était restée la boniche, hein, ce qu'on appelait vulgairement la boniche. C'est-à-dire que elle faisait tout à la maison et puis elle était obligée de demander un petit peu d'argent à son mari pour tenir le ménage. Il fallait qu'elle fasse tout, c'est-à-dire que le mari il prenait l'apéritif avec ses copains et c'était elle qui était obligée de servir et de desservir la table. Puis au bout d'un moment, ça s'est très très mal passé. Puis un jour de grande colère, en 1930, il a pris son fusil et il l'a battu froidement dans la cour. Et puis aux assises de la Sarthe, malgré, si vous voulez, la plaidoirie de Geneviève Brière, qui défendait les intérêts de la famille de la défunte, eh bien, donc, ça s'est très très mal terminé pour la justice, puisque le jury a dit, écoutez, on va quand même pas condamner ce brave homme. Elle lui en a fait tellement baver qu'il a déjà expié toutes ses fautes. Et voilà. Donc c'est pour ça que je pose la question, était-ce vraiment mieux avant ?
On a également sur la page de couverture ce grand corbeau noir, alors c'est Philippe Landel à cette fois-ci qui nous aide peut-être à distinguer ces corvidés qu'on peut apercevoir un peu partout dans nos campagnes.
Oui, effectivement, parce que les corvidés, enfin tout ce qui est noir, les oiseaux noirs étant des oiseaux de mauvaise augure, on a tous eu en campagne et même en ville, un petit peu en tête d'en faire des bêtes un petit peu difficiles et puis pas très fréquentables. Alors donc effectivement, Philippe Landel, lui fait bien la distinction entre tous ces animaux, la famille des corbeaux, les corneilles. Et puis, je vous en passe, des meilleurs. Quand je pense à la corneille, ce qu'on appelle la croix en sartois. Et puis, surtout, ce que vous pourrez voir quand même, c'est que vous en avez deux descendants qu'on a tendance à pas mettre dans cette famille-là. C'est quand même la pie, puisque la pie est de la famille des corvinés. Et un autre animal, le jet, qui lui est quand même beaucoup plus sympathique qu'une pie, et bon, il a de jolies couleurs et tout. Et par contre, le jet des chênes, alias en sartois le roco, lui fait partie également de la famille des corvidés. Donc on découvre toutes ces choses-là à travers de ce splendide article.
Et on va terminer, bien évidemment, avec une petite note romantique, puisqu'on s'approche de la Saint-Valentin, et c'est Jacques-Henri Minier qui nous a déniché quelques noms de rues sartoises, donc, pour cet événement.
Ah oui, effectivement.
Et notamment une proche de chez nous, puisqu'elle est à Beaumont-sur-Sarthe.
Oui. disons qu'il a fait un tri, parce que, il y en a dans tous les villages. Mais à Beaumont-sur-Sarthe, effectivement, celui-ci est particulièrement romantique, puisque Beaumont-sur-Sarthe, c'est la rue du désir. Une rue étroite, il y a des maisons anciennes. Après Signé, il y a la rue de la tendresse. Et puis, en se promenant un petit peu, il y a la rue Doux-Samy, il y a la rue Montplaisir sur Le Mans. Oh, puis encore, faudrait fouiller dans les cadastres, si vous voulez, les cadastres de 1815, les cadastres Napoléon. Et j'invite tous les amateurs de jolis noms de rues à le faire, parce que dans toutes les communes, il y a quand même des rues qui sont appelées maintenant rue de la mairie, des choses comme ça. Je me rappelle notamment à Auvers-le-Hamon, j'avais trouvé que la rue de la mairie s'appelait autrefois la rue d'Amour. Quand même plus romantique.
Voilà, avis à nos auditeurs s'ils veulent effectuer cette recherche, pourquoi pas. En tout cas, monsieur Jean-Pierre Guyard, on vous remercie pour cette belle présentation donc de cette édition de février, la revue La Vie Mancelle et Sartoise. Bien évidemment, comme à chaque fois, on invite nos auditeurs à se procurer cette revue, la lire, découvrir ses illustrations, puisqu'elle est bien illustrée également.
Merci.
Donc, sur le Nord-Sarthe, pour se la procurer, on rappelle les lieux de dépôt.
Oh oui, alors Fresnay-sur-Sarthe, vous avez le Super-U et vous avez le je crois que c'est Coxy Market ou comme ça dans le centre. Mamers, il y a la maison de la presse et puis doit y avoir également le Super-U. Et puis bon, disons que dans toute bonne librairie et tout bon point de vente, puisque maintenant nous sommes redistribués par les diffuseurs de presse, donc nous avons plus de 100 points de vente sur tout le département de la Sarthe. Et puis il y a une chose que vous pouvez faire, amis lecteurs, si vous ne voulez pas en oublier ou êtes obligé de prendre votre voiture pour aller en chercher, abonnez-vous, moyennant 31 € pour 5 numéros, vous le recevrez directement chez vous et aurez le plaisir de le découvrir sans bouger.
Et presque en avant-première.
Et presque, oui, parce qu'il arrive toujours avant la sortie.
Eh bien, écoutez, merci à vous. Puis on se donne rendez-vous pour le prochain numéro. Est-ce qu'on a peut-être quelques sujets à évoquer?
On reparlera du patois, effectivement. On parlera de la vache qui rit. Oui, avec l'usine Bell qui est située à Sablé. De quoi va-t-on parler? Des Françaises dans la course pendant les 24 heures pour cette partie-là, de l'auberge des Hunaudières, enfin bref, encore une très grande diversité de sujets, parce qu'on essaie de les varier systématiquement à chaque numéro.
Merci à vous et à bientôt.
À bientôt.